Ouais, salut Daniel, c'est Anne et Lounès, on est des fidèles auditeurs, on est très contents que tu aies réussi à reprendre la rencontre à la fête de l'humain, on a une pensée émue pour toi, et puis bah continue bien, continue à nous faire balader là-bas si on y est cette année. Allez bisous, ciao ciao.
Ouais, salut Mermet, on boit un verre à ta santé, ciao.
Oui Daniel, je reçois ce matin un mail, ou hier, du programme Maximile de la SNCF quand tu achètes un billet sur le net. Et ils me disent, vous avez gagné 10 points parce que vous avez lu le message suivant. Le message suivant, c'est la tête de Sarkozy, goguenard, avec la signature, le programme 2007 Sarkozy, pour l'UMP. Alors voilà, Sarkozy se sert des listes du programme maximal de la SNCF pour commencer sa campagne. Digne de quoi? D'une démocratie, on peut commencer à se poser des questions. Voilà, merci Daniel, à bientôt.
Bonjour, je m'appelle Didier Fournier, j'habite en Haute-Garonne, à la limite de l'Ariège et de la Haute-Garonne, et voilà, bah, j'appelle pour savoir s'il y a des gens déjà qui ont appelé pour se réunir dans le cadre des grands soirs, dans un bar, pour faire une petite équipe, une fine équipe pour discuter de tout ce qui va bien et pas bien chez nous. Donc moi j'habite un petit village qui s'appelle Saint-Quir, à côté de Saverdin, en Ariège. Et s'il y a des gens qui sont déjà fait connaître pour se réunir dans le coin de Saverdin, Pamiers ou Haute-Rive, ben je suis disponible pour me connecter avec eux ou pour nous réunir donc dans un bar histoire de commenter un petit peu l'actualité. Voilà, mon adresse email c'est didierfournier@free.fr. Didier Fournier en attaché. Merci pour tout et bon courage et à bientôt. Au revoir.
Oui, bonjour Daniel et bonjour à toute l'équipe de la Labastie. J'y suis, c'est Juan de Brest. J'appelais au sujet des amis de Labastie. J'y suis. Et donc, je viens de trouver un bar pour donc l'auditeur brestois qui a appelé l'autre jour. Et donc, c'est le Café de la Plage, Place Saint-Martin, dans l'angle. Donc, j'ai demandé au patron, il est d'accord. Donc, voilà, c'est un auditeur fidèle. Donc, c'est Marcel du Café de la Plage qui te salue aussi. Et donc, c'était juste pour dire que ben on est très motivés pour que on fasse des réunions. On n'a pas encore choisi la date et ni le jour exact pour se réunir. Mais il est tout à fait d'accord pour que tous les Brestois qui aiment la Bastille se réunissent une fois par semaine pour discuter de tout et n'importe quoi. Et autrement, allez, salut Daniel, à la prochaine.
Et ben voilà, ça marche comme ça, un repère de là-bas, des amis de là-bas si j'y suis, le Café de la Plage à Brest. On n'a pas très bien compris, Erwan, l'endroit précis. Il faut nous le préciser sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37, nous dire l'adresse précise du Café de la Plage à Brest et le téléphone de façon à ce qu'on prenne contact avec Marcel, le patron du Café de la Plage. Voilà, c'est une adresse commune. Alors l'auditeur précédent, ben c'est un peu vague, c'est un peu flou. On reçoit pas mal de propositions, des bistrots, des bars, des lieux divers et variés qui disent oui, nous on veut bien être le repère de là-bas si j'y suis, des amis de là-bas si j'y suis, je précise. Voilà, donc on est en rappel, on essaye d'organiser un peu tout ça, et c'est vrai que ça vous plaît, l'idée a l'air de vous plaire bien. Vous êtes nombreux à laisser des messages en disant, moi s'il y a un bistrot, s'il y a un lieu qui se crée comme ça, j'irai, ou est-ce qu'il y en a déjà un, enfin voilà, c'est comme quand on lance ce genre de choses, on suit ce qui se passe. Donc, je rappelle l'idée de la rentrée de là-bas si j'y suis, un peu partout, dans le quartier, dans le village, dans votre ville, trouver, dégoter un bistrot qui peut devenir un repère des amis de là-bas si j'y suis. Vous écoutez là-bas si j'y suis, il y a des gens dans le coin qui écoutent aussi. Voilà, c'est simplement l'idée de se donner chaque semaine un lieu et une heure à laquelle on se retrouve entre auditeurs pour effectivement parler de tout, de n'importe quoi, évidemment préparer la révolution. Mais c'est pas vrai que vous voulez vraiment faire la révolution, ça c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on revient sur un thème qu'on avait abordé déjà dans des reportages il y a quelques mois, on avait appelé ça les tombées de haut, c'est-à-dire ces cadres, ceux qui sont plutôt bien dans nos sociétés, qui s'en sortent bien, qui sont enviés et qui à leur tour sont touchés, menacés, mais touchés cette fois-ci par le chômage, par les licenciements. Il y a un petit livre qui est sorti il y a quelques mois déjà, sans grand tapage, parce que c'est un livre, c'est quelques 60 pages, écrit par Marie-Annick Terbin-Auville, et chez un tout petit éditeur qui est édition Amalté. Voilà, ça n'a pas eu un grand retentissement, et pourtant il se pourrait bien que ce tout petit livre soit le livre qui raconte le plus intimement notre pays, notre société aujourd'hui, itinéraire d'un cadre jetable. Qui est le cadre jetable? Et ben c'est tout simplement le mari de Marie-Annick Terbin-Auville. Elle est prof d'anglais dans son coin là-bas en Bretagne, à côté de Lorient. Et puis ben voilà, son cadre de mari, son ingénieur de mari a été touché par le chômage, et elle a raconté tout simplement avec des mots simples, sans ambition littéraire, sans jouer au sociologue ou à l'économiste émérite, comment ça se vit, comment ça se vit dans une famille, parce qu'évidemment, quand il y en a un qui est touché comme ça par le chômage, ben c'est toute la famille qui morfle, qui trinque, et c'est ce qu'elle raconte tout simplement. Voilà pourquoi on est allé les voir, on est allé voir cette petite famille, c'est Olivia Gesberg qui est allée les rencontrer, et c'est avec eux qu'on va passer cette heure aujourd'hui. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, j'y suis, 01 56 40 37 37.
Jeudi 8 septembre à 9h, une femme somalienne et son nourrissant de 1 mois ont été amenés au centre de rétention de Rouen après le départ de tous les intervenants, infirmières, cimades, greffes, agents d'entretien. Ils s'étaient fait arrêter au guichet de la préfecture où madame allait se faire renouveler son récépissé de demande d'asile. Jusque-là, ils étaient logés à l'hôtel et suivis par des services sociaux. Le responsable du centre a indiqué aux personnes retenues scandalisées par la présence d'un si jeune enfant dans ce centre qu'aucune chambre d'hôtel n'avait été trouvée. À l'arrivée à Roissy, la police n'a pas les documents nécessaires. Ils sont ramenés à Rouen dans les mêmes conditions, madame menottée au dos. Il s'agit là d'une application de la loi et des consignes de renvoyer les étrangers coûte que coûte. Cela conduit à des pratiques aveugles. Mais qui a dit que la France était une terre d'asile? Ne nous habituons pas à l'insupportable avant qu'il ne soit trop tard. C'était Sakina de Bordeaux.
Bon, vu qu'il y a un piano ce soir, je ne résiste pas au plaisir de vous jouer un grand succès, quelque chose qui m'a beaucoup influencé il y a quelques années. Succès. Un tube. Vous reconnaissez ? Un tube.
C'est parfait.
Bonjour. Vous êtes en communication avec le répondeur des acédiques.
Trop jeune, 50 ans on est trop vieux, donc je sais pas.
Ah, dans tous les domaines, hein. Dans tous les domaines. Ouais, après 55 ans, les patrons ont bouché.
Ça c'est comme les prix à l'agriculture. On les maintient fictivement pour ne pas avoir de manifestation, pour dire que ça va bien. Et là c'est pareil, hein, c'est... On modifie les statistiques comme on veut, on crée des CES, on crée des conneries comme ça pour dire qu'il y a moins de chômage.
Je fais un reportage sur un cadre qui est au chômage.
Là. Ah, c'est comme les autres, ils cherchent du boulot, quoi. Alors ils vont à Taïwan. sais rien, mais en Roumanie ou en machin. Ah bah, il paye bien, il paye.
Mais lui, il n'a pas de pré-retraite, même à 55 ans, quoi. Il n'a toujours pas cotisé assez.
Non, maintenant, il faut tout cotiser 40 ans, de toute façon, pour avoir le droit à quelque chose. D'un côté, ils te disent, il faut partir en retraite de bonheur, j'étais plus bon à rien. Et de l'autre côté, on dit, il faut que tu fasses 42 ans. Donc, laisse pas. Alors, on fait quoi?
Salut, c'est Daniel Mermet à Massy, j'y suis avec Olivia Gesbert, itinéraire d'un cadre jetable.
Flight number 2, arriving from New York.
Il y a des jalons dans l'année qui sont terribles. Le sentiment de ne pas en faire partie des autres et du monde, d'être à part, d'être derrière une grille et d'observer ceux qui vivent, qui sont en activité et qui ont droit à leur week-end, qui ont droit à leur jour férié, qui ont droit à leur jour RTT, qui ont droit... J'ai pas tout ça. J'ai pas de vacances.
En 75, quand vous avez passé ce diplôme, vous auriez imaginé un jour que vous pourriez être dans cette situation-là?
Oui, mais sans en connaître ni l'intensité, ni la douleur, ni faute d'expérience. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai l'expérience. Mais elle n'est pas vendable, celle-là, malheureusement.
Que vous rappelle le 29 mai 2005 Le quoi? Le 29 mai 2005. Vous vous rappelez? Non. Effectivement, on se demande ce qui s'est passé le 29 mai 2005 de si important que ça. Oublié, balayé, un petit coup d'ardoise magique, et pourtant, on sait bien que ce ne sera pas sans suite, et ça n'est pas sans signification ce qui s'est passé ce jour-là. Non. Le 29 mai 2005, une majorité de Français ont dit non au projet de constitution européenne. Mais au-delà de ça, on sait bien qu'il y a une signification, une photo qui a été donnée ce jour-là de la société française et des malaises et du malaise de cette société française. Le hiatus. Vous vous souvenez quand même, dans les jours qui ont suivi, on en a parlé un petit peu. Depuis, on a oublié, mais enfin, dans les jours qui ont suivi, on en a parlé. Le hiatus était très important entre les médias, ce que disaient les médias et ce que les Français ont choisi de voter. Pourquoi? Parce que les gens des médias défendaient une idée, leur idée, pas leurs idées, mais leur idée. Leur idée, c'était l'Europe, oui à ce projet de constitution. C'était leur idée. Et des Français ont voté oui parce que c'était aussi leur idée. Et d'autres Français ont voté non parce que c'était aussi leur idée. Mais la majorité qui a voté non, c'était pas seulement à cause d'idées, pour des raisons d'idées, c'était à cause du vécu de chacun, tout simplement. À cause de ce que chacun vit dans sa vie. Et aujourd'hui, il y a un mot qui se banalise, qu'on entend partout, une expression plutôt qu'on entend partout, qui est insécurité sociale. Insécurité sociale, ce qu'il y a au cœur, au fond, au creux, qu'on ne veut pas voir, bien sûr, de notre société, c'est la question de l'emploi, la question du chômage. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même bel et bien ça qui est au cœur, au creux, au fond de notre présent. Voilà pourquoi le petit livre, encore, j'ai dit le nombre de pages, encore une fois, de 59 pages, de Marie-Annick Terwin-Auville, a un tel retentissement. Vous allez voir, itinéraire d'un cadre jetable, c'est simplement ce qui leur est arrivé à cette petite famille, encore une fois, de ceux qui sont gâtés, de ceux qui font envie, de ceux qu'on voit dans les réclames, qui sont l'exemple pour ceux qui sont en dessous et ceux ceux qui sont en dessous, peut-être, rêvent-ils de ces belles situations, avoir une situation. Et on va voir ce que ça fait, ben, quand on tombe de si haut. C'est notre sujet jusqu'à 18h dans la Bas si j'y suis.
Toute ma vie jusqu'au samedi, moi j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. C'est vrai, j'ai jamais rien fait d'autre que de mettre un pas devant l'autre. C'est vrai, j'ai jamais rien fait d'autre que laisser passer tous les autres. J'ai pas fait de vagues et là je me dis, j'étais de ce qu'on obéit. J'ai pas fait de vagues et j'ai comment dit, jamais rien dit. Moi j'ai fait que suivre les bœufs, pas fait l'anguille, j'ai fait la queue. J'avais pas la haine et le cœur léger. J'ai pas nagé, j'avais pas la haine, je sais que j'ai jamais plongé. D'ailleurs dans les vagues s'est faufilé tous les câbles qui m'ont roulé. Oui dans les vagues, moi j'ai pas vu ceux qui m'en voulaient. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Rien. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Rien. Tasse en tasse, j'ai tout avalé, sans dire la note est salée. J'ai dit c'est bon, j'ai dit bonsoir, d'une note pleine d'espoir. J'ai dit c'est bon et c'est dans le noir que j'ai vomi dans un mouchoir. Pour mon silence et pour mon absence, j'avais reçu des récompenses. Oui, en guise de messager, moi j'ai dit tout va s'arranger. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Rien. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Rien. J'ai lâché ceux qui me disaient, n'oublie jamais qu'on est visé. N'oublie pas qu'on peut être ici, assis sur la branche qu'on scie. N'oublie pas qu'on peut être ici, rue des soucis. Tendu la main, les gens le savent, quand on me disait c'est pas grave. Quand on me disait t'en fais pas, ici tout se règle au compas. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Rien. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Rien.
Marianick Auville et accessoirement Terrain, c'est mon nom de jeune fille, prof en lycée professionnel. J'aurai 51 ans dans 8 jours et j'enseigne l'anglais. Et j'ai écrit un tout petit bouquin pour essayer d'aider mon mari dans son problème de chômage. Je suis mère de 4 enfants, c'est mon statut. Mère de 4 enfants, femme de Pascal et non pas femme de l'ingénieur. Et voilà. Alors vous, c'est Pascal?
Moi, c'est Pascal, mari donc de Marianick. Donc, ingénieur et 55 ans, travaillé dans des groupes internationaux pendant 25 ans pratiquement, et puis depuis 5 ans, tenté l'aventure en PMI, PME, avec pas mal de problèmes, dont celui de, justement, de transition professionnelle un peu trop nombreuse.
On est des gens ordinaires et il nous arrive un truc que...
Ce truc, c'est quoi? Le chômage?
Ah ben, ce truc, c'est le chômage, évidemment, auquel on avait pensé, mais pas avec cette acuité, pas avec 4 licenciements, et pas avec avec cette trouille permanente de pas y arriver, quoi. Et quand on fait 4 enfants à notre époque, c'est qu'on a un projet de famille, et quand on se dit qu'on pourra peut-être pas aller au bout, c'est terriblement difficile. Enfin, et on en a marre d'être exclu, oui. Moi, j'en ai marre, oui. Franchement, moi, j'en ai marre. Hein. Puis j'en ai marre de voir mon mari rien faire, alors qu'il a besoin et rien faire, j'entends. Ne pas aller travailler, ne pas mettre son costume le matin, ne pas prendre sa voiture. Mais bien sûr, il fait plein de choses, bien sûr.
C'est Pascal qui silencieusement fronce du sourcil, hein, quand on dit rien
non,
faire.
Non, je dis ne fait rien. C'est pas du tout ça. Hein.
Alors c'est pas le goulag, hein. c'est même pas la Courneuve là où on est, au contraire c'est très joli, c'est à 20 km de Lorient, une petite ville qui s'appelle Linguidic. Il faut prendre la 4 voies en direction de Vannes. À Linguidic il y a 6500 habitants. Il y a un taux de chômage de 9,7%, donc un petit peu en dessous de la moyenne nationale. Et la petite famille, là où on se trouve, vit dans un cadre tout à fait agréable. C'est une jolie maison rose avec de jolis volets blancs à deux étages. Une location quand même à 950 euros chaque mois. Donc, voilà, enfin, vous passez là, vous dites, ben voilà, ça, tout va bien. Sauf que, il y a ce petit livre, écrit par Marie-Annick, avec qui on vient de faire connaissance. Et si j'ouvre le petit livre de Marie-Annick, juste le prologue. Je veux dire, les mots qu'on a soulignés, comme ça, vous savez, avec un marqueur, hop, on a souligné un certain nombre de mots. Je vois, blessure, exclusion, angoisse, peur. Hein, juste quelques mots comme ça. Je vois votre vie bascule. Et je vois là aussi pour des enjeux financiers. Je découvre la haine. Simplement quelques expressions comme ça, tout à fait saugrenues il y a peu de temps encore dans la bouche et l'esprit de gens de ce milieu-là, disons, c'est-à-dire en un seul pour dire le plus rapidement quoi, des classes moyennes. Or, ces classes moyennes, eh bien, sont de plus en plus touchées, de plus en plus effrayées par ces pertes d'emploi. Combien de temps un système pourra fonctionner de cette façon? On ne sait pas du tout. Mais j'emploie le mot système parce que dès qu'il s'agit de se tourner vers les responsabilités de cette situation, on emploie des mots comme système, comme pouvoir, comme société. C'est de la faute au système, c'est de la faute au pouvoir, c'est de la faute à la société. Et c'est très commode parce que c'est des entités floues, un système, pouvoir, société. Alors comme on sent bien qu'il s'agit d'entités floues, de choses vagues, eh bien on personnalise, et on personnalise à outrance. On dit c'est de la faute à Cellière. On guignolise, on dit c'est de la faute à Raffarin, c'est de la faute à un tel, et ça nous fait c'est le jeu de massacre, c'est très amusant de jeter des balles de chiffon contre ces personnages comme à la fête foraine. Mais on n'a pas la responsabilité réelle quand on est entre la personnalisation aussi forte que ça, ou au contraire l'irresponsabilisation à travers des concepts flous, des notions floues. En fait, il s'agit d'une suite d'enchaînements de petites responsabilités, mais pas totales. Les uns et les autres, nous n'avons qu'un petit bout de vision de ce qui se passe. Chacun est un petit chaînon. Hein, d'un ensemble qui fait qu'il y a le nombre de chômeurs que vous savez, avec tous les soupçons que nous avons sur ce chiffre du chômage. Mais là, il ne s'agit pas de chiffres de chômage, il s'agit de chômeurs, il s'agit du chômeur lui-même. Comment il vit, comment sa famille vit avec lui, ce qu'il ressent. Et c'est les mots qui reviennent dans ce texte court, blessure, exclusion, peur, angoisse, et un autre mot que j'ai oublié d'indiquer, droit au travail.
Ben, ça fait peur, oui, parce que ça fait une bouche de plus à nourrir en quelque sorte, hein, et qui ne rapporte pas. C'est un ensemble, c'est le problème de la société, c'est pas le problème du chômeur lui-même, c'est le problème de la société. Ils ne doivent pas prendre ça comme une part, c'est un accident de parcours.
Est-ce qu'ici, par exemple, la ville est assez touchée aussi par le chômage? On en parle beaucoup.
On n'est pas écarté. Hein.
On n'est pas écarté, c'est sûr.
C'est pas parce qu'on est à 25 km de Lorient, ville à vocation rurale, qu'on n'est pas touché par le chômage non plus. Maintenant, les gens veulent travailler et sont obligés d'aller là où ils travaillent. Quoi. Donc, on ne trouve pas forcément à proximité de son domicile. Quoi.
Vous avez des gens dans votre entourage qui sont ou qui ont été au chômage pas pour des périodes?
Oui, inévitablement, oui. Oui.
Quatre licenciements, puis là, on arrive à plus d'un an de chômage. Ouais, moi, je trouve que c'est de l'héroïsme, ouais. Bah, de supporter ça, de voir sa femme aller... Je veux dire que tous nos schémas se cassent la figure, quoi.
C'est notre chien, ça.
99, fin 99, 9 et 5, 14, 9 et 6, 15, ça fait 6 ans, quoi. Ah, ça fait 6 ans, ouais.
Alors, chronologie des événements. Licenciement, chômage, nouvel emploi, déménagement, mise à pied, licenciement, chômage, nouvel emploi, déménagement, licenciement, chômage. Septembre 2005, où est-ce qu'on en est ?
Septembre 2005, un an de chômage. Après une tentative d'essai dans une entreprise située à 700 km de distance, qui n'a pas donné satisfaction.
Donc maintenant, ça fait plus de 5 ans que toute l'histoire a commencé quelque part, cette histoire-là.
Exactement.
Alors les gens rigolent parce qu'on déménage tout le temps, mais enfin, là, ça devient de moins en moins drôle, parce que là, on a vendu la maison, on se retrouve en location, très agréable au demeurant, mais enfin bon, ça on a l'impression de ne pas en voir le bout quand même. Hein. On a l'impression de ne pas en voir le bout. Et on a exactement 2 ans devant nous.
Deux ans, c'est quoi cette date?
Ben, c'est la date de couverture des assédics, hein. Si Pascal ne trouve pas dans 2 ans, il n'aura même pas le droit au RMI parce que je travaille. Sachant le salaire des profs, avec des mots machards, c'est pas la misère, hein. On ne sera pas dans un logement insalubre, mais ce sera probablement une demande de logement social. Des choses que nos amis ont vachement de mal à comprendre, quoi. Parce que de tout le groupe d'amis des ingénieurs qui ont fait la même école que Pascal ou de ceux qui ont vécu avec nous ou en même temps que nous, on est les seuls touchés par cette merde, quoi. Avec deux mômes étudiants, 1 500 € par mois, c'est pas bizarre, ça.
1 500 €, c'est votre salaire?
C'est mon salaire, ouais. Mon salaire mensuel.
Et là, en ce moment, vous avez quoi de plus?
Pascal touche, en effet, des assédics intéressants. On est à 2 600 € d'assédic, hein, plus ou moins 1 500, et dans 2 ans, c'est fini, quoi. Je veux dire, c'est ça, le problème, c'est le mur, quoi. Le problème, c'est le mur. Alors, évidemment, on va avoir du mal à faire pleurer dans les chaumières, avec des revenus qui sont relativement confortables, mais qui sont complètement limités dans le temps, hein.
Je sais pas comment faire. 2005, c'est ça, vous dites?
2006 d'assédic et moi 1 500. Mais c'est vrai que...
Non, c'est juste pour comprendre aussi, quand on parle du moment où ça bascule, avant à peu près le salaire d'un cadre, c'est combien?
C'est une réduction de 50% de mon salaire.
D'accord, donc environ 5 000 €, quoi.
Oui.
Ouais, c'est ça.
Ça suppose un chamboulement complet dans la structure, je dirais, financière familiale.
Du café.
Pas si malheureux. On entend ces mots qui sont en train de retentir dans toute la France qui écoute la basse si j'y suis en ce moment. Mais attendez, ils n'ont pas de quoi se plaindre. La question n'est pas là. La question, c'est qu'on essaye de vous montrer aux uns comment vivent les autres. D'abord, tout simplement. Mais il faut comprendre aussi que ça gagne. Cette inquiétude, cette angoisse gagne. Il faut comprendre aussi que c'est pas fini. On n'est pas, comme disait un auditeur l'année dernière, au mois de mai, enfin au début de cette année, on n'a pas le cul sorti des ronces. Quand on voit ce que souhaite avec acharnement, avec entêtement, le MEDEF, c'est-à-dire la transformation du code du travail. Enfin, ça doit être, il doit y avoir le mot progrès là-dedans, probablement. Ça doit être présenté de cette façon. La remise en cause de la couverture sociale, le régime d'assurance chômage, voilà un frein à l'emploi, la suppression du SMIC, voilà ce qu'il faut, évidemment, pour améliorer la situation. Alors que pendant ce temps-là, on délocalise. L'exportation, par exemple, de textiles chinois va entraîner la suppression de 15 à 20 000 emplois. Toujours selon le MEDEF, 15 à 20 000 emplois avec l'exportation de textiles chinois. 24 000 emplois seront supprimés selon la CGT. On n'est pas tout à fait d'accord avec le MEDEF sur ce point. On voit que ça continue. Et dans l'élan général, les cadres, ceux qui étaient gâtés, ceux qui nous encadraient, sont à leur tour touchés aujourd'hui.
Bonne soirée sur France 2. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Une bonne nouvelle dans la grisaille économique. Le chômage a baissé pour la quatrième fois consécutive en juillet, moins 1%. Une amélioration qui s'explique surtout par le retour des emplois aidés, essentiellement dans le secteur public. La rentrée des classes, encore une fois.
Marie-Louise, les chiffres du chômage en baisse, ça commence bien. On baisse de 1%, c'est génial. À peu près quoi, 25 000 chômeurs, hein?
Ça fait 25 000 chômeurs, mais apparemment, c'est grâce aux emplois aidés dans le secteur public, donc c'est intéressant. Donc, c'est sûrement pas un emploi cadre d'un vieux monsieur de 55 ans. Voilà, pour l'instant, c'est à peu près tout. 9,89, c'est quand même une baisse très sensible, hein. 9,99, oui, bah, c'est tant mieux, hein, pour ceux qui ont retrouvé un emploi, moi, je suis ravie. Mais ça règle pas notre problème à nous, hein, pour l'instant. Donc voilà, nos commandes pour l'instant. On verra bien à quoi est due cette baisse, mais de toute façon, si c'est des emplois qui durent 2 ans pour des jeunes de l'âge de nos enfants, ça sert pas à grand chose, hein. Ça sert à, probablement, à baisser les chiffres pendant les semaines qui viennent, et puis après ça, hein, ou 2 ans, et encore.
Mais quand on entend ça, un sujet sur le chômage, par exemple, on se sent directement concerné ou c'est une info qui passe?
Non, complètement concerné. Mais dès qu'il s'agit du chômage, mais je trouve qu'on n'en parle pas vraiment. Pas en tant que réalité humaine. On en parle en tant que chiffre, mais jamais. On voit rarement un chômeur interviewé ou sa famille interviewée, quoi. Les chiffres, oui. Mais c'est pas parlant, les chiffres. C'est là la grosse difficulté. C'est qu'on n'a pas envie d'être un chiffre. Et ce qu'on vit au quotidien, chaque jour, on n'est pas un chiffre, on est une famille, quoi, donc impossible. Et là, Pascal, ça fait juste 1 an qu'il est au chômage. C'est monstrueux, 1 an. Donc, faut tenir. Corps.
Tout sourire, Jean-Louis Borloo. Pour le 4e mois consécutif, le chômage est en baisse. En juillet, 25 600 demandeurs d'emploi en moins. Avec 2 400 000 chômeurs, le taux recule de 1% et passe sous la barre des 10%, une première depuis 22 mois. Directement concernés les jeunes, moins 2,5%, et les chômeurs de longue durée, moins 1,8%. Première explication, le plan de cohésion sociale commence à porter ses fruits, avec notamment 11% d'apprentis en plus. Autre argument, la bonne santé de certains secteurs. Une bonne parole que Jean-Louis Borloo a tenté de porter auprès de ses demandeurs d'emploi, sans pour autant convaincre.
C'est comme la présidente du MEDEF, elle a fait son truc hier et je voyais qu'elle dit, sa formule c'était réenchanter le monde, et qu'ils viennent donc voir comment sont les gens, quoi. Et alors le journaliste dit une jeune femme à la tête du MEDEF, une jeune femme de 45 ans. Alors pourquoi à la tête du MEDEF on est jeune à 45 et pourquoi dans le salariat on est vieux à 45, quoi, et a fortiori à 55. Réenchanter le monde, c'est magnifique, hein, on croit rêver.
Elle est belle cette maison quand même.
Ouais, elle est jolie, ouais. Elle est jolie, c'est une location au centre de Bretagne, dans les terres, qui nous coûte beaucoup moins cher que l'achat qu'on avait fait sur la côte, mais qui coûte le même prix qu'un F3 en centre de Paris, quoi. Avec l'avantage des cloches à 7h15 pour la messe, parce qu'on est en Bretagne. Donc j'ai fait une tarte paysanne, tomate, moutarde, gruyère. C'est franchement bon. Et normalement, Olivia devrait adorer.
À table.
Voilà.
Je n'ai plus qu'un mot à dire. Où est la place du chef?
Là. Tiens, moi j'ai biscotté le chef, tu coupes?
C'est assez cuit?
Non, c'est pas assez cuit. Non, je me suis dit, je vais pas le faire cuire assez.
Ça va être bien la radio, le coupage de tarte à la tomate.
Eh bien, tu sais, c'est la première fois que tu verras sur France Inter un coupage de tomate, de tarte à la tomate.
Ouais.
Non, peut-être pas la première fois, mais...
Vous, Pascal, vous êtes parent?
Je suis.
Normand.
Oui.
Ah oui, plus.
Ah oui.
Et vos parents, justement, vos parents, ils faisaient quoi?
Je viens de...
C'est compliqué, les parents, Pascal.
Oui, c'est assez compliqué. C'est en fait d'une famille côté paternel, d'une famille d'industriels. Côté maternel, agriculteur, les grandes exploitations agricoles de Normandie. Famille nombreuse, nous étions 7. Ensuite, mon père est revenu, vu les difficultés en agriculture, est revenu comme technicien dans l'industrie, dans Normandie, puisque entre-temps, on était reparti dans le Midi. Voilà. Et puis ma mère s'est mise, avec ses nombreux enfants, à travailler en tant que salariée, à 45 ans, je pense, à peu près. S'est mise à travailler aux allocations familiales, ce qui était un exemple formidable, et en passant des concours, etc. Donc quelque chose d'extraordinaire.
Et vous, Mariani, vos parents ?
Moi, j'ai été très privilégiée parce que j'avais un père qui était médecin spécialiste. Moi, socialement, le problème est réglé. J'ai aucun problème de statut social. Ça ne m'intéresse pas, quoi. Parce que je pense que j'ai été, gâtée, certainement, au départ. J'ai pas de revanche à prendre. Mes parents m'ont donné tout ce que j'avais à avoir. Ils m'ont permis de faire des études. Ce que je voulais pour mes enfants, maintenant, j'espère pouvoir aller au bout de, n'est-ce pas, Baptiste? C'est pas gagné, et bon, il faudrait demander à Baptiste.
C'est pas perdu non plus.
C'est pas perdu, certes, mais...
Et alors vous deux, vous réagissez comment?
Ben ouais. Et Baptiste, tu
ah, je sais pas. Que devant les parents, c'est pas évident, mais...
Mais moi, bon, ça m'intéresse aussi.
Pas comme papa, en tout cas. Ça m'a... Non, mais moi, ça m'a... D'abord, ça m'a cassé quand même.
Ouais.
Notamment, depuis la seconde, j'ai déjà failli refaire ma seconde, ma première, ma terminale. Ça bloque maintenant, mais il fallait bien. Mais je me suis dit, peut-être moi maintenant, mais pourquoi faire des études alors que je suis pas sûr de... Plus tard, quand je serai casé, enfin casé, quand j'aurai une famille, tout ça... Non, je suis pas sûr de... Que ça donne quelque chose, quoi, sur le long terme.
Tu t'es dit à quoi bon faire des efforts, quoi.
Oui, pour plus tard, si ça sert pas forcément.
Il a des bons diplômes, mais finalement.
Voilà. Non, là, ça va mieux, parce que. Je dirais pas on s'habitue, mais.
Mais oui.
Mais plus ou moins, bah si, un peu. Justement, j'ai peur de ça, qu'on croit. Par rapport à ce que maman disait ça aussi, qu'on pense que c'est de sa faute, que c'est. Pourquoi, comment, il n'y a pas de fumée sans feu, ça, oui, ça j'y ai pensé, on me l'a jamais dit, mais peut-être qu'on l'a pensé, mais non, on me l'a jamais dit, non.
Voilà.
Si on mangeait cette tarte, on reparlera tout ça après, quoi.
Vous pouvez peut-être la
qui
faire
va être fin, de la
mais... Mais non, mais elle sera très bonne froide, je suis sûre.
Ah, non, non, non.
On parlera de ça après. On parlera de ça après. On parle toujours de ça après. C'est vrai que si vous écoutez la radio pour vous changer un peu les idées et vous détendre, c'est raté. C'est complètement raté. Parce que ce dont nous parlons là, nous entendons parler là, c'est l'angoisse qui soigne de partout, qui imbibe tout, cette insécurité sociale, c'est la hantise de perdre son emploi, c'est la honte d'avoir perdu son emploi, c'est la culpabilité de ne pas trouver l'emploi. Et là, c'est, pour une fois, c'est pas des sociologues, des économistes, des éditorialistes qui ont écrit là-dessus. C'est simplement Mariani, que vous entendez, qui est l'épouse de Pascal, qui, dans 60 pages, a raconté comment ça se vit dans une petite famille. Elle dit, c'est le témoignage rempli d'amertume et de ressentiment d'une famille blessée par l'épreuve du, ou plutôt des licenciements et périodes de chômage successifs. Elle finit en disant, ceux qui l'ont subi s'y reconnaîtront, les autres les découvriront. Il se peut que beaucoup, c'est pas seulement une découverte, c'est quelque chose que tous nous redoutons et qu'il faudra bien un jour voir vraiment tous de face.
Le journal Alain Passerelle.
Bonjour, la désolation.
Marie-Élie qui parle même pas de votre entrée. Hein.
Si, ça va venir. C'est un grand jour. On a une trousse neuve, on a les nouveaux crayons. Et voilà.
Donc, bien dormi ?
Oui, très bien.
Et alors vous, Pascal, habillé de votre peignoir super papa, vous commencez la journée comment ? Bah, la même heure que Marie-Élie déjà. Hein.
Au travail, entre guillemets, à partir de 9h, parce que c'est à partir de là que l'on est susceptible d'avoir un appel téléphonique, d'une part. Bon, les appels sont rares.
Quel sentiment ça vous fait de la voir partir en cours ?
quelquefois d'être soulagé pour être ne pas culpabiliser à lui interdire ses vacances. C'est ça. Alors, je suis pas forcément très content parce que c'est aussi une page qu'on tourne. Il y a des jalons dans l'année qui sont terribles. Le sentiment de pas en faire partie des autres et du monde, d'être à part, d'être derrière une grille et d'observer ceux qui vivent, qui sont en activité et qui ont le droit à leur week-end, qui ont le droit à leur jour férié, qui ont le droit à leur jour RTT, qui ont le droit... Moi, j'ai pas tout ça. J'ai pas de vacances. Et en complément, Marie-Annick non plus, bien sûr. Et les enfants non plus, parce que finalement, on leur bouffe, je leur bouffe tout, quoi.
Non,
et ça, c'est difficile. Et on leur bouffe. Non,
c'est pas toi. Mais non, mais, le problème n'est pas de culpabiliser. Mais c'est vrai que c'est difficile. Hein. Hum? C'est pas toi qui, c'est nous qui.
Oui, non, mais exactement. Mais en même temps.
Mais c'est pas ça.
Dominique de Villepin n'est pas le seul à faire sa rentrée. 880 000 enseignants retrouvent en effet aujourd'hui leurs établissements. Hier, Gilda.
Gilda, je te présente Olivia de France Inter qui vient faire la rentrée avec nous.
Bonjour.
Le directeur, bonjour.
Comment ça va? J'ai pris connaissance de Marie-Annick.
Oui, j'ai coupé mes cheveux.
Voilà ma copine Anne, c'est la star. C'est elle.
Juste rentrer heureuse, ça marche aussi?
Oui, je pense. Normalement, ouais.
Depuis un an, c'est vrai que ça a pris une place très très importante, tout ce qui leur arrive. Elle a beaucoup d'humour, mais en même temps, c'est violent. Les gens ne sont pas tendres. Et
le chômage, c'est quelque chose dont on ne parle pas, généralement.
Non, pas ici. Alors, est-ce que c'est parce que on est entre guillemets protégé, sans doute, mais elle a eu l'occasion de découvrir, parce qu'elle en a parlé, une prof qui connaissait cette situation-là par son mari depuis plusieurs années et qui n'en parlait pas.
Qui n'en parle toujours pas.
Je ne sais pas comment exactement Pascal le vit, mais il y a de quoi douter en fait de ses compétences, quoi, ou de l'expérience acquise aussi. On comprend les gens, on les utilise le temps dont on a besoin d'eux, et puis on les jette. Et c'est pour ça que personne n'est à l'abri. Mais ici, si on n'en parle pas, c'est peut-être pour parce que les gens ont peur, tout simplement. Ils veulent pas savoir si leur voisin a les mêmes problèmes. C'est chacun pour soi. Alors que Marie-Annick, justement, c'est pas chacun pour soi.
Je peux m'asseoir?
Oui, c'est comme les élèves, il n'y a personne qui va au premier rang.
Non, bah non, c'est normal. Attends, il y a le directeur sur les strates.
Allez, on y va?
Allez-y.
À tout à l'heure.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite déjà une bonne rentrée 2005-2006. Je vais revenir sur des choses importantes. Alors, en commençant par une petite pensée pour nos collègues qui nous ont quittés l'année dernière, avec des pertes de contrat, des pertes d'heures, des pertes de postes complètement. Donc je vais vous donner de leurs nouvelles.
J'étais avec Marie-Annick ce matin qui a commencé sa journée, sa rentrée scolaire.
Oui.
On va parler un peu de vous maintenant.
On sent pas d'activité, peu d'annonces, mais en cours de projets est quasiment vide.
C'est le classeur blanc, c'est
la gestion de ma recherche, hein, récente, disons, hein, parce qu'il y a évidemment un passé.
Le bleu, c'est les réponses, hein, à des offres qui n'ont pas forcément fonctionné. Réponses,
essentiellement des offres, là.
Alors, le CV, justement, je vois que, par exemple, là, le vôtre a été déposé en novembre 2004. Qu'est-ce qu'il dit, votre CV?
C'est le CV classique qui est mis à jour, et donc directeur de site industriel.
C'est celui-là?
Non.
Alors, formation. Le diplôme, il arrive quand, le diplôme d'ingénieur?
Il arrive quand, en 75?
Vous êtes diplômé de Centrale?
Ce qu'on appelle Centrale Nantes.
Quand vous avez ce diplôme, ce jour-là, vous souvenez du jour où vous avez eu votre diplôme?
Oui.
Mais vos parents réagissent comment quand ils savent que vous voulez suivre cette voie-là?
Content parce que pour eux, bah c'est une voie quand même qui garantit, je dirais, l'avenir. Sûrement. Bon, c'est sans commentaire presque.
Donc 75, c'est donc le 76, c'est le début, hein. Premier licenciement en 99. Oui. Mais donc jusque-là, ça nous fait quasiment 25 ans, hein.
Ça fait 15 ans dans un premier groupe, et puis 10 ans dans la filiale du groupe automobile, équipementier d'ANA.
Responsable technique 76-85 au département machines tournantes. 89-91, responsable qualité, membre du comité exécutif, management de 35 techniciens et du laboratoire d'essais des matériaux, directeur qualité et des études développement, membre du comité de direction, supervision des offres et des contrats techniques et de l'industrialisation, management de 200 personnes, président des CHSCT.
Ça, c'est les comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail.
Voilà, c'est des termes très techniques, mais on comprend que voilà, vous étiez quelqu'un d'important. Vous êtes.
Oui, je pense que je le suis toujours.
Comment on arrive à être confronté, alors qu'on a le sentiment, j'imagine, d'être quand même en partie à l'abri, à la brutalité du marché du travail, avec un premier licenciement en 99, un licenciement économique, hein.
Oui, alors, c'est un licenciement économique, et il faut bien dire que... avant 99, j'ai dû conduire un plan de restructuration complète des deux sites, parce que appartenant à un groupe international, à sa division industrielle, ils envisageaient de s'en séparer. Enfin, il y avait des objectifs extrêmement élevés à atteindre, dont les fameux 15% de rentabilité des investissements. J'ai donc proposé effectivement un plan de restructuration qui malheureusement aboutissait à également réduire en effectif. On avait fait des gains de productivité très importants. Le marché ne pouvait pas, la part de gâteau n'augmente, le gâteau n'augmentant pas, une des solutions bien sûr était ramener les effectifs à réduire les effectifs au moins sur un site de près de 20%. Donc une vingtaine de personnes sur une centaine de personnes, quoi.
Alors j'imagine que c'est une décision qui doit pas être facile à faire, de devoir proposer un plan de restructuration.
Non, mais
donc
c'est
social.
Ça ou la disparition totale. C'est toujours le même problème. On avait déjà attendu un peu trop longtemps, mais bon, les dirigeants européens avaient du mal à rentrer dans cette considération-là, parce que c'est un coût aussi. Puis c'est un coût au sens que un plan social, c'est quelque chose qui coûte.
On hésite parce que c'est un coût.
Disposition, oui. Puis pourquoi s'embêter avec ça?
On s'inquiète pas du fait qu'on va mettre 20 personnes à la rue. C'est pas forcément le premier problème. Non. Le premier problème, c'est de se dire que ça peut coûter, quoi.
Voilà, oui, exactement. Il fallait agir. Et l'arrivée d'un nouveau directeur général, qui venait du groupe, un Anglais d'ailleurs, c'est à cette occasion que j'ai proposé la chose, parce que de toute façon, on aurait été de plus en plus dans le rouge. Ça pouvait pas être autrement.
Donc, on sacrifie 20 personnes pour en sauver 80?
Oui, c'est malheureusement la loi, je dirais la loi presque économique, à condition que ce soit traité au mieux et le plus humainement possible, si le mot a encore un sens, hein, c'est vrai.
Vous veniez de me dire qu'il y avait
réduire pour reprendre.
Réduire pour reprendre. Mais vous veniez de me dire qu'il y avait eu un gain de productivité.
Oui.
S'il y a gain de productivité, ça se porte
assez mal. Et à condition que les commandes rentrent. Parce qu'on peut avoir un gain de productivité, ça c'est le côté exécution, c'est-à-dire on fait plus.
La chienne qui est fermée.
On fait plus avec moins, en quelque sorte. On produit plus avec moins de personnes, moins de ressources, disons, qu'elles soient humaines ou autres.
Tout ça, vous êtes dans votre bureau quand vous décidez tout ça, ou vous êtes en contact avec les salariés de cette entreprise?
Très très en contact.
J'imagine, alors.
Y compris avec, malheureusement, les gens dont on se sépare ensuite.
Quand vous devez proposer ces 20 noms quelque part, vous mettez déjà des visages sur ces noms. C'est pas juste des chiffres. On regarde pas au hasard.
Ça arrive sur la fin, c'est-à-dire la partie mise en application. Ça, c'est très très difficile. C'est évidemment très très difficile. Bah parce que il y a tout le côté humain, c'est-à-dire qu'on sait pertinemment qu'il y a un certain nombre là-dedans, surtout que c'est une vieille industrie, c'était une ancienne entreprise, aurait du mal à se reclasser parce que c'était en 99 et on peut pas dire que l'emploi a été très très porteur à ce moment-là, que ces gens sont restés ancrés sur un savoir-faire qui est complètement dépassé dont on n'a plus besoin. Ils ne peuvent pas retrouver sur le marché de l'emploi à 40 ou 45 ans quelque chose. Alors bon, formation, c'est pas simple pour des gens qui avaient souvent peu de qualifications. Ça, c'est pas simple pour ces quelques personnes en tout cas. Bon, ça reste toujours aussi douloureux. C'est simplement certains sourient parce qu'ils échappent à ces critères et puis d'autres plus. Hein. Genre, il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur, mais malheureusement, il faut faire des choix.
Alors, dit un peu crûment, pour 20 d'entre eux, vous êtes le salaud, et pour 80 d'entre eux, vous êtes le sauveur.
Oui.
C'est ce qu'on dit dans le regard des gens à ce moment-là.
C'est vrai, sauf que bon, je me sens entièrement responsable et j'assume complètement ce rôle-là, même s'il est demandé. Je veux dire, quand on prend une responsabilité, des responsabilités comme ça, on accepte aussi les mauvais côtés.
Je résume, 99 c'était le premier licenciement économique, 2001 la mise à pied pour faute grave et deuxième licenciement donc, qui s'ensuit, et c'est en janvier 2002 que vous retrouvez un nouvel emploi, cet emploi-là, et donc un an et quelques plus tard que vous allez être à votre tour de nouveau licencié. Alors je le raconte par la voix de Marie-Annick, hein. Nous continuons notre nouvelle vie jusqu'à la première alerte au 24 décembre, les résultats de l'entreprise sont mauvais, voire très mauvais. La suite, tout a été mis en œuvre pour limiter les dégâts et il y eut une amorce de reprise quelques mois plus tard qui a redonné un peu d'espoir. Cet espoir, malheureusement, se fit sur le dos de 5 salariés de l'entreprise qu'il a fallu licencier. Il faut dire que lorsqu'on sait ce que représente un licenciement, on a du mal à faire la chose légèrement et sereinement.
Eh oui, bah, même scénario, je dirais, mais à une échelle beaucoup plus petite. Effectivement, j'ai été amené à conduire un licenciement de 5 personnes, mais c'était 5 sur 60, sur 70, ça fait beaucoup. Et c'est la répétition surtout qui est plus dure à supporter. Une fois, c'est déjà pas facile. Deux fois, ça devient à 2 ans de distance, c'est très pénible, quoi. C'est pas glorieux, tout ça. C'est quand même un échec.
Il y a 30 ans, 75, quand vous avez passé ce diplôme, vous auriez imaginé un jour qu'on pourrait être dans cette situation-là ?
Oui, mais sans en connaître ni l'intensité, ni la douleur, ni faute d'expérience. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai l'expérience. Mais elle n'est pas vendable, celle-là, malheureusement.
On se boit quelque chose, on fait une petite pause ?
Oui.
Un petit thé ou un verre, et puis on remonte ou on mange, on fait un manger.
On va manger, oui.
Merci à tous, merci à Pascal Auville, le cadre jetable, merci à son épouse Marie-Annick Thervin Auville, auteur de ce petit bouquin itinéraire d'un cadre jetable. C'était un reportage d'Olivia Gesbert. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Clotilde Thomas et Anne Le Guénec, c'était nos techniciennes aujourd'hui. Réalisation Antoine Chao, Yann Chouquet et Raphaël Mouterde. Assistante Pascal Le Pascariello. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37 et c'est Christophe qui s'en occupe. On se retrouve demain pour Là-bas si j'y suis à 17h. Mais d'abord, régalez-vous de cette page de pub.